Au-delà de la stupeur et de l'indignation, cette guerre en Ukraine me plonge dans une grande perplexité. J'ai l'impression de voir se dérouler une guerre comme on en a toujours vu, avec son lot de soldats morts, de massacres de civils, de bombardements, avec ses files de chars qui s'étirent dans des paysages en ruines, ses problèmes de logistique et des sièges de villes que certains qualifient d'ailleurs de médiévaux. Alors bien sûr, la propagande y joue un rôle central, mais à part qu'elle engage les réseaux sociaux et autres outils numériques, elle me semble pas servir des buts très différents de toute propagande en temps de guerre. Ce qui me rend perplexe, c'est l'impression qu'à l'exception de quelques armes de pointe, drones, missiles hypersoniques, les technologies n'affectent pas profondément la forme du conflit. D'ailleurs, quand l'invasion a commencé, j'avais les yeux rivés sur le cyber, les attaques de sites internet, les virus, les frappes contre les infrastructures, etc. J'ai attendu que les Russes fassent tomber l'internet ukrainien, qu'ils mènent une véritable cyberguerre. Alors, il y a eu des choses, bien sûr, mais pas tant que ça. On peut arguer de la bonne résistance numérique des Ukrainiens, sans doute bien préparée. On peut aussi en déduire que les Russes ne sont pas aussi armés numériquement qu'on le pensait. Alors, ces deux explications valent sans doute. Mais il y en a peut-être une autre, non exclusive des deux précédentes d'ailleurs. Et si il y avait plus de permanence qu'on ne le croit dans la guerre? Et si le cyberespace n'était pas un lieu si central dans la conflictualité? Pour répondre à ces questions, j'avais besoin de quelqu'un qui les examine depuis la doctrine militaire. Et j'ai trouvé. Bertrand Boyer est colonel dans l'armée de terre. Depuis plusieurs années, il s'intéresse à l'aspect cyber de la guerre. Il a écrit plusieurs livres, dont le dernier s'intitule « Guérilla 2.0 » a été publié aux éditions de l'École de guerre. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il est posé, qu'il est dialectique et qu'il aime plonger dans l'histoire. La preuve, j'ai commencé par une question assez banale en lui demandant ce qu'il frappait dans ce conflit. Et tout de suite, il est remonté dans le temps.
Le code a changé.
Moi, mes travaux, ils portent sur la transposition dans le monde numérique de certaines théories ou de certaines pratiques d'histoire militaire. Alors, ce qui est frappant, c'est que finalement, on observe depuis quelques années des mises en pratique dans le monde numérique de ces théories qui, moi, me semblaient un peu naïvement réservées à une pratique guerrière, finalement, une pratique militaire au sens strict. L'appel aux partisans, par exemple, qu'on a pu observer là avec l'IT Army en Ukraine, c'est quelque chose qui est présent dans l'histoire militaire depuis plusieurs siècles. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que finalement, il y a une transposition progressive qui s'opère et des mécanismes qu'on avait l'habitude d'observer dans le monde réel hybrident complètement le monde numérique. Et c'est ça que je trouve intéressant.
Là, il m'étonne quand même un peu, Bertrand Boyer. Je pensais qu'il allait me parler de formes nouvelles de cyberattaques que je n'aurais pas vues, de manière particulièrement innovante d'utiliser les réseaux sociaux ou je sais pas quoi encore. Et non, ce qui l'intéresse, c'est de voir se reproduire dans le monde numérique un procédé qui est quand même pas tout jeune, l'appel aux partisans. Et il évoque l'IT Army. Peu après l'invasion, le vice-premier ministre ukrainien a lancé un appel aux bonnes volontés d'informaticiens et de geeks du monde entier pour les aider les Ukrainiens, à contrer les offensives numériques des Russes. Et d'ailleurs, le Guardian avait raconté qu'ils étaient des milliers de par le monde, ou ils avaient été des milliers de par le monde à répondre et à s'engager pour participer à des opérations informatiques contre la Russie. Alors, on voit bien comment cet appel réactive une figure centrale de la mythologie guerrière, celle du partisan, du civil qui va entrer en résistance par conviction politique. Une figure hyper importante, notamment dans ces pays ex-communistes, qui suppose une certaine manière de faire la guerre. C'est plutôt le coup de main que la guerre de position. C'est évidemment à dessein que les Ukrainiens manipulent cet imaginaire et ces pratiques. Mais alors, comment expliquer cette permanence? Par un manque d'imagination? Le fait de plaquer de vieilles stratégies à un milieu qui, lui, est nouveau? Ou est-ce que ça ne signifie pas que, avec le numérique ou pas, la guerre se fait toujours un peu de la même manière?
Je ne sais pas si ça se fait toujours de la même manière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'objectif, c'est toujours le même. C'est d'imposer sa volonté à l'autre. Dans les années 90, après la première guerre du Golfe, il y a un livre qui a été écrit par deux colonels chinois que j'aime beaucoup, qui s'appelle « La guerre hors limite ». Et en fait, ces deux colonels, ils théorisent déjà le débordement de la conflictualité. Pendant des siècles, finalement, on a cantonné la conflictualité à quelque chose de très armé contre armé, un truc de spécialiste, vous voyez. Avec l'avènement du numérique en particulier, on voit une hybridation, c'est-à-dire un débordement des zones de conflictualité. Toutes les frontières auxquelles on était habitué finalement pour encadrer nos raisonnements se gomment. Alors je dirais pas qu'elles volent en éclats, je dirais qu'elles se gomment progressivement. Et on a des espèces de zones où on ne sait plus trop si on est dans le conflit armé, la compétition économique, la criminalité.
Ce que dit Bertrand Boyer, là, ça résonne fortement avec ce qu'on sait par ailleurs de la manière dont ça fonctionne en Russie. On sait donc que certains groupes de cybercriminels sont proches des services de renseignement russes, parfois même du Kremlin, et qui peuvent passer d'activités criminelles rémunératrices à des attaques politiques qui visent des cibles qui contreviennent aux intérêts du gouvernement russe. Et tout ceci hors période de conflit, ou même pendant une période de conflit, et c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'invasion en Ukraine. Cette frontière floue entre la cybercriminalité, la compétition économique parfois et le conflit armé, eh ben, c'est pas une exception russe, mais elle est particulièrement observable en Russie. Mais quand j'évoque ces groupes de hackers russes proches du pouvoir, Bertrand Boyer, lui, il précise.
C'est pas si simple que ça, visiblement, puisque il y a un certain nombre de groupes de ransomware, donc de gens qui pratiquent libération de vos données contre rémunération. Un certain nombre de ces groupes étaient en fait constitués à la fois de Russes et d'Ukrainiens et d'autres probablement de nationalités très diverses.
Là, Bertrand Boyer, il fait référence à un événement assez dingue qui s'est produit quelques jours après le début de l'invasion et qui a fait quand même pas mal jaser dans le milieu numérique. Un groupe appelé Conti, appartenant typiquement à ces groupes de cybercriminels proches du gouvernement russe, a vu fuiter un nombre incalculable de messages échangés en interne par ce groupe de cybercriminels. Ce qui permet de voir comment le groupe fonctionne, évidemment, et puis donne plein d'autres renseignements. Or, la fuite ne peut provenir que de l'intérieur. Alors, l'hypothèse la plus probable, il y avait dans Conti au moins une personne hostile soit directement à la politique de Poutine, soit à l'instrumentalisation du groupe Conti à des fins politiques. Bon, une histoire comme celle-ci, elle pose une question à laquelle j'avais pas tout de suite pensé. Souvent, on utilise par analogie le mot de « armée » pour désigner ces groupes. Mais cette histoire semble prouver qu'en termes d'engagement, l'analogie, eh ben, elle fonctionne pas vraiment.
Dans le cyberespace, la notion de groupe, elle est à interroger. Parce que le numérique, ça nous permet d'avoir cette liberté d'adhérer sans trop adhérer, d'y être sans y être, d'y être quand on a envie. Et donc, ça remet sur la table la réflexion autour de l'affiliation.
Alors ça, c'est passionnant. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Parce que ce que dit le colonel, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup pour parler de l'engagement à l'ère numérique en général. Bon, par exemple, est-ce que liker est un acte politique qui équivaut à aller à une manif ou adhérer à un syndicat ? Il y a d'ailleurs un mot qui désigne ce mode d'engagement, le slacking. Et donc, une critique habituelle est de considérer que cette manière de faire de la politique est peu engageante, est sujette au changement, etc. Et j'avais jamais réfléchi au fait que ce rapport entretenu aux causes politiques qu'on peut défendre, eh ben, il peut se répercuter dans le champ de la guerre, par exemple. Et que ça pouvait faire douter de la cohésion de groupes dont les individus sont connectés, mais opèrent à distance, et parfois se connaissent très peu, etc. Quand on voit l'importance que les militaires accordent à la cohésion du groupe et le soin qu'ils mettent à la construire, mon service militaire m'a appris ça, on se dit qu'en effet, elle doit être plus difficile à obtenir quand le groupe qui va mener l'attaque est un groupe de cybercriminels éparpillés dont l'un peut facilement faire défection et en quelques clics faire fuiter des gigaoctets de données. Mais bon, ça veut dire aussi que toute une part de la guerre dans le cyberespace est menée par des gens qui ne sont pas des militaires. Au sens où ils ne sont pas engagés dans l'armée. D'où la question que je me pose. Est-ce que ça signifie qu'avec le numérique, la guerre est en train d'échapper aux militaires ?
La guerre, par nature, elle échappe aux militaires. La confrontation armée, ça reste le domaine réservé entre guillemets du militaire. Mais la guerre au sens large, c'est une action politique.
Ok, alors je vais reformuler ma question. Alors, est-ce que la confrontation armée, quand elle se dédouble dans un autre espace, est-ce que du coup elle échappe aux militaires ?
J'ai envie de vous dire oui, mais comme depuis l'aube de l'humanité.
Ah bon ? C'est quoi les exemples ?
Très concrètement, le recours à des groupes soit mercenaires, soit contractualisés, ça date pas de l'année dernière. Le Royaume de France était un grand consommateur de Suisses, de mercenaires, donc pour armer ces conflits. L'exemple le plus parlant, historique, je pense, c'est les lettres de course et les corsaires. Quand même des civils qu'on a armés ou à qui on autorisait des actes qui relèvent de la piraterie en mer, mais qui étaient couverts juridiquement par une lettre de course signée du roi ou de son représentant. Donc le recours à la privatisation du conflit armé, c'est quelque chose qu'on redécouvre, mais qui, en définitive, est quasiment aussi ancien que la confrontation armée.
Vu comme ça, c'est sûr. C'est la seconde fois que Bertrand Boyer fait ce type de raisonnement. Ce qu'on croit être complètement nouveau ne l'est pas complètement. Mais elle est un peu quand même. J'avoue que ça me plaît assez comme manière de réfléchir. D'ailleurs, dans son livre, il fait un parallèle frappant. Il dit, bon, bien sûr, entre le siège d'une place forte au Moyen-Âge et l'invasion d'un pays aujourd'hui, il y a de grandes différences. Pourtant, si on s'en tient aux moyens employés pour arriver à une fin, il est étonnant de constater que infester les systèmes informatiques de l'ennemi avec des virus, eh ben, c'est pas très différent de l'empoisonnement des puits d'eau qu'on pratiquait il y a 1000 ans. C'est s'infiltrer dans une infrastructure pour la rendre dysfonctionnelle et fragiliser la défense. Alors, ce type de rapprochement, c'est hyper séduisant intellectuellement. Mais je me demande si ça résiste à un examen un peu précis.
Bah, c'est des exemples qui doivent nous aider à comprendre comment on peut lutter contre ces menaces-là. Moi, je me place du côté institutionnel, du côté défenseur, et donc il faut réfléchir à la manière dont l'autre ou les autres vont conduire leurs opérations. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement de se demander est-ce qu'en face de nous, enfin l'évolution de la nature des acteurs induit ou implique que nous devions changer nos modes d'opératoire. Alors, j'ai pas de réponse. C'est
mais c'est dommage. Parce que
mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est l'idée qu'en face de nous, on a une palette d'acteurs qui est beaucoup plus large qu'avant. On pense aux groupes de hackers, etc. Mais il faut aussi inclure les grands groupes, les plateformes, etc. qui sont des acteurs aujourd'hui. Lorsque Meta décide d'ouvrir ou de fermer tel ou tel service dans tel ou tel pays, ça devient un acteur potentiel du conflit.
Ok, je comprends le raisonnement. Si on se place du point de vue du défenseur, la question est de savoir s'il faut se défendre des virus informatiques comme on se défendait de l'empoisonnement des puits. Bon, je caricature évidemment, mais la question c'est de savoir si les vieilles méthodes prévues par la doctrine, les vieilles logiques doctrinaires, peuvent encore servir à l'ère numérique. Et là, c'est marrant parce que je repense à la visite d'un château que j'ai fait cet hiver dans les Vosges. C'est le château du Haut-Koningsburg, qui est célèbre notamment pour avoir servi de décor à la deuxième partie de La Grande Illusion, le magnifique film de Jean Renoir. You understand that if you do not obey my order now, I'll have to shoot. Ce château, il date du XIIe siècle et il a été évidemment plusieurs fois détruit, reconstruit, etc. Et à un moment de la visite, on est passé devant le puits et un panneau expliquait comment ce puits avait été progressivement renforcé au fur et à mesure que les armes évoluaient, que le matériel militaire évoluait. Et le panneau expliquait notamment qu'il avait fallu ceindre le puits d'une muraille de plus en plus épaisse quand l'artillerie est devenue capable d'enfoncer de larges murs et qu'on pouvait craindre qu'il ne soit obstrué par les gravats, qui évidemment aurait été fort dommageable. Alors, on voit bien l'analogie. Quelle méthode on emploie pour protéger une infrastructure vitale? Que ce soit un puits hein, ou un réseau informatique. L'entourer d'un mur épais, c'est une méthode, mais on aurait aussi pu multiplier les sources d'approvisionnement, par exemple. Bon, on peut en effet trouver des analogies dans les modes d'adaptation, même anciens. Mais Bertrand Boyer ajoute un élément de taille, avec la multiplication des acteurs et l'arrivée des énormes entreprises. Que Facebook, aujourd'hui Meta, devienne un acteur non négligeable des conflits d'aujourd'hui, ça, on le voit tous. Mais ça pose une nouvelle question. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, la présence dans un conflit, d'acteurs de ce type, qui sont presque aussi puissants que certains États? Et quand je lui pose la question, Bertrand Boyer, d'abord il sourit. Alors je lui ai demandé pourquoi il souriait.
Je souris parce que vous avez utilisé le mot puissance.
À dessein, mon collègue.
À dessein. Non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est quoi la puissance à l'ère numérique? C'est quoi la puissance d'un acteur numérique? Moi, je suis pas certain qu'il y ait une réponse complètement verrouillée sur cette question-là. Est-ce qu'on mesure la puissance d'un acteur au nombre d'internautes qu'il y a sur son territoire, à sa connectivité, au nombre de data centers qu'il héberge? Enfin, qu'est-ce qui qualifie la puissance d'un acteur numérique? Je sais pas, ça dépend ce qu'on regarde. Et donc, ça pose un problème d'évaluation. En stratégie, notamment, la notion de dissuasion. Alors, on s'est dit, au début, il y a une vingtaine d'années, le cyber, c'est un peu le nouveau nucléaire. C'est l'arme ultime, celui qui va maîtriser le cyber maîtrisera tout, etc. Et donc, va s'enclencher une nouvelle forme de dissuasion. Bon, en fait, c'est pas du tout ce qu'on a observé. Ce qu'on a observé, c'est que l'arme cyber, en tout cas les attaques cyber, faisaient partie du quotidien. C'était pas quelque chose qu'on gardait sous le pied au cas où pour faire peur, et surtout parce qu'on n'arrive pas à mesurer la puissance d'un acteur très objectivement.
Mais on arrivait auparavant à mesurer la puissance d'un acteur?
Bah, dans le monde physique, oui, partiellement. Ah ouais. Dans le cadre des accords de désarmement, il y avait des visites mutuelles, on comptait le nombre de têtes nucléaires, le nombre de chars, le nombre, même si c'était toujours sujet à caution, mais vous aviez des métriques robustes sur lesquelles vous pouvez qualifier. Dans le cyber, on n'a pas du tout ce type de métriques. Et donc, ça ouvre des possibilités assez intéressantes sur la rhétorique. Dans le cyber, si vous démontrez que vous êtes fort une fois, rien ne prouve que vous le serez une deuxième fois.
Ouais, mais rien ne prouve que vous ne le serez pas.
Et si vous ne le faites pas, rien ne prouve que vous ne l'êtes pas. Et donc, il y a bien une partie de poker menteur.
Ok, je vois comment on peut bluffer avec sa puissance de frappe numérique plus facilement, sans doute, qu'avec d'autres armes. Bon, d'ailleurs, ça expliquerait ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui s'est pas passé en Ukraine. Mais plusieurs choses m'intéressent dans cette remise en question de la notion de puissance dont parle Bertrand Boyer. La première, c'est, est-ce que ça permet de faire émerger de nouveaux acteurs étatiques? Des états qui sont en bas de la hiérarchie si on mesure leur puissance militaire traditionnelle, mais qui sont vraisemblablement plus puissants dans le cyberespace.
Je pense que c'est très similaire à la manière dont on incorpore les nouvelles technologies. Globalement, vous avez des vieux qui adoptent les technos. En général, ils sont un peu plus assis dans la vie, donc ils ont des moyens, donc ils vont accéder rapidement à des technos importantes. Donc les États dits puissance, ou en tout cas les grands, les États-Unis, la plupart des pays européens, un certain nombre d'acteurs d'ailleurs aussi asiatiques, etc., vont rentrer dans le numérique avec un niveau d'emblée très important. Ensuite, vous avez les gens qui vont naître avec. Je suis un acteur de rang moyen et je me pose la question de j'y vais pas. Donc je vais faire des choix. Ces pays-là vont, pour la plupart, développer ce type de capacité parce qu'elles coûtent moins cher que des capacités classiques.
Il peut donc y avoir irruption dans le cyber d'acteurs secondaires comme l'Afrique du Sud ou même certains pays du Moyen-Orient parce qu'ils ont investi ce champ avec plus d'enthousiasme. Mais il n'y a pas non plus de bouleversement global des hiérarchies, ça c'est intéressant. Autre question au sujet de cette notion de puissance. Qu'est-ce que ça change pour les militaires, du point de vue tactique, hein, de ne pas savoir exactement où en est le potentiel de l'adversaire?
Ça change pas mal de choses dans la mesure où le raisonnement classique tactique, c'est d'abord, on va analyser la mission, on va analyser l'adversaire, on va analyser le terrain, et puis après, on va réfléchir à des modes opératoires. Quand on n'est pas capable d'analyser l'adversaire, la phase 1 du raisonnement, elle commence à devenir compliquée. Le deuxième volet qui est, à mon sens, assez important, c'est on maîtrise aujourd'hui moyennement les effets domino, les effets de bord sur certains systèmes ou sur certaines actions. Aujourd'hui, je suis pas certain qu'on mesure l'impact complet sur la société ou sur nos opérations de la neutralisation, d'un acteur de l'agroalimentaire, par exemple, majeur. Si ça se traduit par dans 3 mois, il n'y a plus de rations de combat qui sont projetées, ça va générer un vrai problème. Donc, ça change la manière dont on doit penser nos actions et dont on doit construire nos opérations.
D'accord. Donc là, juste à travers cette question de la puissance et de son évaluation, on mesure en quoi le conflit dans le cyber perturbe la tactique militaire. Mais j'ai quand même du mal à évaluer cette perturbation. À savoir si la doctrine militaire a déjà fait face, par exemple, à un truc aussi énorme.
Vous savez, il n'y a pas une évolution technique qui n'engendre pas une évolution de la pensée militaire. Aucune. Je pense que la révolution numérique, parce que c'en est une, au même titre qu'il y a eu une révolution industrielle, ce n'est pas un objet supplémentaire. C'est une rupture. Sauf que quand on dit ça, les gens imaginent que la rupture, c'est de 0 à 1, brutal. Les ruptures, c'est pas toujours brutal à l'échelle de la vie d'un homme. Là, pour rester dans notre domaine de la conflictualité, moi, je fais partie de cette génération d'officiers qui est rentrée en service au moment où, peu ou prou, le mur de Berlin est tombé, etc. Donc on a vécu les dividendes de la paix. Bon, à ce moment-là, on n'était pas du tout dans ces réflexions-là. 20 ans plus tard, on est en train de se demander comment on fait pour être présent sur les réseaux sociaux, comment on recrute avec les réseaux sociaux, comment on ne suit pas des fausses informations, comment on lutte contre ça, comment on protège nos systèmes à l'échelle d'une vie. Il y a une transformation radicale et un impact qui est réel.
C'est important ce que dit Bertrand Boyer là, la rapidité avec laquelle tout ça a lieu. Sans doute que ça joue pour beaucoup dans la singularité du numérique par rapport à d'autres évolutions techno. C'est intéressant que ce soit à ce moment-là de la discussion qu'il est le plus clair sur le fait qu'il y a bien une rupture qui s'opère. Mais justement, j'aimerais savoir ce qu'elle affecte, cette rupture. Et je demande donc à Bertrand Boyer à quoi il pense quand il parle d'impact réel.
L'exemple qui m'a, alors à titre perso, mais qui m'a beaucoup frappé, c'est Benghazi 2011. Et c'est des émeutes à travers tout le Moyen-Orient qui sont dues à quoi ? Qui sont dues à la diffusion d'un navet sur YouTube, et même pas le film complet, c'était juste un extrait. C'était l'époque où on croyait que les deux mondes, numérique et physique ou réel, cohabitaient et n'interagissaient pas. Et en fait, là, on a clairement l'exemple d'une situation qui est dégénère dans le monde réel jusqu'à entraîner la mort de plusieurs personnes, dont un ambassadeur, sur la base d'une excitation numérique.
C'est vrai que cet exemple est frappant. L'histoire est assez dingue, et elle a même donné lieu à un film complètement nul de Michael Bay, mais bon, je l'ai regardé quand même parce que j'adore les films de guerre, même nul.
You have a US ambassador at risk.
The ambassador is in his safe haven. You're not the first responders. You're the last resort. You will wait.
Le code a changé.
Le 11 septembre 2012, et pas 2011, à Benghazi, en Libye, une manifestation a lieu devant l'enceinte diplomatique américaine, et elle dégénère, des gens y pénètrent et tuent plusieurs personnes, dont l'ambassadeur américain en Libye, Christopher Stevens, qui était là. Même s'il est possible que cette attaque ait été moins spontanée que ça, ce qui a motivé la manifestation, c'est en effet la diffusion d'une vidéo sur YouTube, l'extrait d'un film qui se moquait du prophète. Donc, oui, monde numérique et monde physique s'interpénètrent et la doctrine militaire doit en tenir compte. Ça fait partie des impacts dont parle Bertrand Boyer. Mais il me semble qu'il y a d'autres impacts du numérique qui sont plus endogènes. Je me souviens avoir fait il y a quelques années une émission sur les équipements militaires et leur technologisation. Bon, un soldat des forces spéciales aujourd'hui dans une puissance militaire moyenne ou importante, il est entièrement connecté. Ce qui lui donne une vision du terrain tout à fait autre que celle qu'il avait du temps des cartes papier. Une vision beaucoup plus complète. Les invités m'avaient expliqué que ça changeait des aspects tactiques très très concrets. Par exemple, la nécessité de laisser plus d'initiatives à de toutes petites unités. Alors, c'est un aspect parmi d'autres, mais je pose quand même la question à Bertrand Boyer.
Mais sur le plan tactique, la connectivité, la numérisation, ça a évidemment eu des impacts majeurs et très rapides. La première guerre du Golfe, c'est aux yeux du monde la preuve éclatante de l'efficacité de la mise en réseau d'une force en action. C'est la première fois qu'on a ce qu'on appelle le Blue Force Tracking, c'est-à-dire que les unités bleues, donc les amis, savent où sont les autres, sans avoir à s'appeler à la radio, à se paumer parce que la carte elle est pas au bon endroit. On a une couverture satellite, on a des images. Nous, sur le plan tactique, ça a évidemment été d'abord intégré comme un démultiplicateur de capacité. L'effet pervers, c'est que ça crée des nouvelles dépendances. Des dépendances par rapport au système d'information. Et ces dépendances-là, elles sont pas forcément anticipées. Donc, ça démultiplie plein de choses, mais à la fois, ça crée plein de vulnérabilités. Pensez que vous alliez évoquer les histoires sur les applications sportives qui permettaient de géolocaliser les bases des Américains et d'autres en Irak. Mais c'est typiquement un exemple de la numérisation non contrôlée.
Alors là, j'aurais bien aimé avancer cet exemple, mais je pouvais pas, parce que je ne voyais pas du tout de quoi parlait Bertrand Boyer. Donc j'ai cherché, et c'est un truc qui date de 2018. On s'est aperçu que le système de géolocalisation d'une application développée par Strava Labs, qui fabrique des applis sportives hyper populaires, permettait d'identifier la position de soldats américains en Irak, en Afghanistan et en Syrie, mais il ne faut pas se moquer des Amerlocs parce que c'était pareil pour les soldats français au Niger. Bon, en fait, comme plein d'autres gens, les soldats utilisent Strava pour monitorer, enregistrer et partager leurs performances sportives. Sauf que ils laissaient leurs applis fonctionner dans leur téléphone même quand ils faisaient autre chose que du sport. Du coup, leur position et leur trajet devenaient des données publiques. Et dans des pays où il y a peu d'usagers de Strava, typiquement l'Irak ou l'Afghanistan, et ben ça permettait de faire apparaître très clairement les bases, les lieux de patrouille, etc. On voit assez bien le problème. Et ça, c'est quand même un défaut majeur de la technologie, fais-je remarquer au colonel.
Le point critique, c'est les usages non maîtrisés. C'est pas les technos. ne pas maîtriser son téléphone portable, c'est pas être capable de paramétrer la sécurité d'un certain nombre de choses sur ses comptes, désactiver la géoloc, effacer son historique Google, etc. Alors, on maîtrise de moins en moins, c'est bien ça le sujet d'ailleurs.
Je me souviens qu'en 2014-2015, à peu près, là, au temps de l'État islamique flamboyant, des personnes faites prisonnières par les djihadistes racontaient que le premier réflexe de leur geôlier, c'était de leur demander les logins et mots de passe de tous leurs outils numériques et de leurs comptes dans les réseaux sociaux. C'était sur la base de ce qu'ils y trouvaient que les djihadistes établissaient la plus ou moins grande culpabilité des prisonniers. Et l'un avait même raconté comment le fait d'écrire à son frère, qui était soldat pour la coalition, avait constitué une charge supplémentaire contre lui. Pendant que je pense à tout ça, une remarque me vient à l'esprit. Quand il dit que c'est bien ça le sujet, j'arrive plus à savoir si Bertrand Boyer est en train de parler des militaires ou des citoyens ordinaires. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce que disent en fait tous les gens un peu avertis sur la vie privée depuis longtemps, bien au-delà du statut particulier des militaires. Alors, je fais part à Bertrand Boyer de ma remarque.
Le militaire, c'est pas un objet en lévitation, hein, c'est un citoyen comme les autres, sauf que à un moment, il peut être amené à être dans des situations qui sont hors normes. Donc les erreurs qu'on ferait ou qu'il ferait dans le cadre privé, on est potentiellement des applications tactiques. Ça date pas du conflit ukrainien. Hein. En Afghanistan, les talibans traquaient les soldats de la coalition sur les réseaux sociaux, prenaient contact avec des faux profils. Ce type de manipulation, c'est presque aussi vieux que le monde, sauf que maintenant, on a des outils qui permettent de le faire, un, à grande échelle, et deux, avec de l'historique. Il y a de la mémoire dans ces outils-là.
C'est-à-dire, ils se transmettent et tout ça,
c'est oui, quoi? C'est-à-dire qu'on peut constituer des bases de données, qu'on peut s'échanger, et on peut capitaliser sur de la durée. Des groupes comme Daesh, par exemple, avaient des services, ou en tout cas des gens qui passaient leur temps à collecter de l'information sur les cibles potentielles. Ces données-là, elles disparaissent pas en même temps que la personne qui a fait ce travail-là. Donc elles s'accumulent, elles s'agrègent, et vous pouvez regarder ce qui a été communiqué des documents qui ont été saisis à El Motaba dans la cage de Ben Laden. Ça prouve que ces groupes-là accumulent progressivement énormément d'informations, et les outils numériques permettent de garder cette mémoire, chose qu'il était beaucoup plus compliqué de faire avant.
C'est un truc qui m'avait frappé en regardant Zero Dark Thirty, le film de Catherine Bigelow sur la traque de Ben Laden. À la fin, quand les Américains entrent dans la maison de Ben Laden, une fois qu'ils l'ont tué, ils prennent grand soin d'embarquer tous les ordis et disques durs. Et d'ailleurs, on a l'impression presque que ça prend plus de temps que ce qu'ils ont fait précédemment. Proper SSC right now. Books, DVDs, CDs. Hey, open that for me. Let's go, guys. Yo, what's up? I shot the third floor guy. Et je me souviens qu'un peu plus tard, certains de ces documents ont été déclassifiés par les Américains. Près de 500 000 documents. Alors, on a beaucoup commenté le fait qu'il y avait donc dans les ordis de Ben Laden du porno, des films de Mr. Bean, des lolcats et même des vidéos de mariage d'un de ses fils. On avait un peu commenté aussi des documents qui montraient des liens un peu étonnants avec l'Iran. Mais bon, c'était ce qu'avaient bien voulu libérer les Américains. Et pour le reste de ce qu'il y avait là-dedans, on ne saura probablement pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très intéressant cette idée de l'archivage de données qui s'accumulent, qui se précisent, qui se transmettent. J'avais jamais réfléchi. C'est logique, hein, mais c'est un peu flippant aussi. Et encore une fois, c'est un décalque dans le domaine militaire d'une propriété du numérique qui est notre condition à tous et à toutes. D'ailleurs, la preuve se trouvait dans les archives de Ben Laden, des trucs qui pourraient aussi se trouver dans les miennes. Je parle de Mr. Bean. Ça veut dire aussi une chose dont Bertrand Boyer parle dans son livre. L'indistinction entre temps de guerre et temps de paix. Parce que ces informations accumulées par les acteurs de conflit, qu'ils soient terroristes, criminels ou étatiques, elles le sont aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Le risque lié à ce qu'on expose est permanent, d'où la conclusion de Bertrand Boyer.
La conflictualité, elle est partout dans le numérique, ça c'est sûr. Parce qu'il y a de l'argent à se faire, parce qu'il y a des enjeux politiques. Voilà, il faut y aller, je pense, avec beaucoup de mesures.
Si le numérique étend la conflictualité dans l'espace et dans le temps, comme il le dit, ça pose une question passionnante, celle du droit. La guerre, on le sait, c'est une question juridique. La guerre est régie par des règles qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent amener à des condamnations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cyberespace? Est-ce que la question juridique y est aussi importante?
Elle est essentielle, en tout cas pour les acteurs démocratiques. C'est un sujet moi, qui m'a pas mal interrogé sur le mécanisme de la guérilla, etc. C'est, faut-il appliquer les mêmes méthodes que nos adversaires? C'est souvent ce que les gens vous disent. Ils disent « Ah, mais il faut, il y a qu'à... Ouais. » Sauf que, quand les forces agissent, elles agissent dans un cadre juridique. Et ce cadre juridique, c'est peut-être quelque chose qui peut être contraignant, mais c'est aussi ce qui nous empêche de basculer et ce qui fait qu'on est crédible dans ce qu'on défend.
Ça me rappelle les doutes qui avaient saisi l'administration Obama au moment de lancer l'offensive sur la Libye en 2011. Parce que des cyberattaques avaient été envisagées, notamment contre le système de défense anti-aérien libyen. Mais plusieurs raisons avaient dissuadé les Américains à y avoir recours. Il y avait d'abord le temps de préparation, ce qui est plutôt contre-intuitif, hein. Mais il y avait surtout le cadre juridique. En gros, en agissant dans une zone floue du droit de la guerre, les Américains craignaient d'ouvrir une sorte de brèche juridique, de créer un précédent qui autoriserait leurs adversaires potentiels à faire de même. Et donc, finalement, ils s'étaient limités à des frappes classiques.
Xavier Delaporte, sur France Inter.
Mais toujours sur cette question du droit, j'ai une interrogation un peu plus précise. On sait que l'article 5 de l'OTAN pose un principe de solidarité. Si un membre de l'OTAN est attaqué, les autres se doivent d'être solidaires et de venir en aide au pays attaqué. Et donc, je demande à Bertrand Boyer si ce principe serait activé par une cyberattaque. Et à partir de quel seuil on considère qu'une cyberattaque est un acte de guerre?
Pour mettre en œuvre ce type de mécanisme, il faut un élément fondamental qui est l'attribution d'une attaque. Donc il y a une question de seuil, c'est-à-dire à partir de quel moment on dit « bon là, ça suffit ». Et ensuite, il y a la question de l'attribution. La question de l'attribution, pour la France à ce jour, c'est une question politique, c'est pas une question technique.
Ça veut dire ?
Ça veut dire que ce n'est pas les acteurs techniques qui vont dire « cette attaque, c'est tel acteur ou c'est tel pays ». On va décrire des actions et ensuite, c'est le politique qui décidera ou pas d'attribuer cette opération.
C'est assez fou quand on y pense. Le politique l'emporte sur le technique, y compris pour la question de l'attribution d'une attaque informatique. Bon, en même temps, ça rejoint ce que Bertrand Boyer a dit au tout début de notre discussion. La guerre a toujours échappé en partie aux militaires parce que c'est une question politique. Encore une fois, ça ne change pas fondamentalement. Mais j'aimerais bien qu'il précise un peu cette question de l'attribution. Pourquoi faut-il se résoudre à ne pas pouvoir attribuer techniquement une cyberattaque ?
On voit bien que les outils aujourd'hui, ils sont partagés, ils sont réutilisés par différents acteurs. C'est quand même extrêmement compliqué d'avoir une preuve absolue de l'implication d'un tel ou d'un tel. Et lorsque c'est le cas, ça demande des efforts de renseignement, des efforts de coopération internationale également, qui dépassent le tempo médiatique de l'action.
Ok, donc même si on en était capable, ça prendrait trop de temps, il faudrait prendre des décisions avant. D'ailleurs, au passage, j'aime assez l'expression qu'il emploie « tempo médiatique de l'action », qui dit bien, encore une fois, que la guerre s'insère dans un contexte toujours plus large que la simple confrontation armée. Et je me demande si toutes ces raisons, raisons juridiques, difficultés de l'attribution, etc., participent au fait qu'on n'ait pas encore assisté à une véritable cyberguerre. Bon, on a assisté à des cyberattaques, y compris provenant sans doute d'acteurs étatiques, mais pas vraiment à une cyberguerre. Au sens où deux États se bastonneraient à coups de virus, d'attaques en déni de service, de destruction d'infrastructures numériques et j'en passe. Comment expliquer qu'une cyberguerre n'ait pas encore eu lieu ?
J'aime pas ce mot.
Non mais c'est pas parce que vous l'aimez pas que ça peut pas avoir lieu. Hein. La puissance de votre verbe, elle est pas non plus...
Je suis pas certain de savoir ce qu'on met derrière ce terme. Voilà. Ce qui est pas trop contestable, à mon sens, c'est l'utilisation de ce type d'outils ou de ce type d'action dans un contexte de conflit. Ok, on appelle ça opération numérique, opération cyber. Le terme cyberguerre, il laisse entendre qu'il pourrait y avoir une forme de conflictualité réduite au cyber, en fait, attaque contre attaque, qui n'est pas d'incarnation dans le monde physique. Ça, j'y crois très peu, à vrai dire. Parce que tout ce qui se passe dans un domaine a une résonance dans l'autre. Il n'y a pas d'attaque cyber hors sol. Elles répondent à une logique, elles répondent à une volonté, elles répondent à un objectif. On ne fait pas ce genre de choses sans chercher quelque chose. Et donc, il y a nécessairement un volet physique ou un volet extra-cyber.
Ça, c'est très intéressant. Et c'est central, je pense. D'ailleurs, il faudra qu'on y revienne, parce que c'est une question presque philosophique. Pourquoi la cyberguerre ne se suffit-elle pas à elle-même ? Mais bon, je remets la philo à plus tard. En attendant, il faut explorer une autre direction. En admettant que le numérique ne soit qu'un pan de plus ajouté à la guerre, est-ce que ce pan change malgré tout la nature de la guerre ? J'aimerais savoir ce qu'en dit la doctrine militaire. Et Bertrand Boyer m'explique qu'il y a un débat parmi les spécialistes.
Vous avez des chercheurs là, comme Thomas Reed qui vont vous dire rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, finalement, c'est un outil supplémentaire dans la palette qui permet de faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire de l'espionnage, de la subversion et du sabotage. Après, il y a à l'autre bout du spectre d'autres chercheurs ou d'autres acteurs du domaine qui vont être un peu plus enflammés. Il y a un monde nouveau, il y a des nouvelles possibilités, sans trop jamais d'ailleurs les décrire, ces possibilités.
On a bien compris, je crois, où se situait Bertrand Boyer, plutôt du côté de Thomas Reed. Bon, j'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Alors je regarde, c'est un chercheur en sciences politiques spécialisé dans le rôle que tiennent les technologies de l'information dans les conflits. Il est allemand, il a enseigné à Berlin, Londres, aujourd'hui à Washington. Il a l'air assez balèze, il est plus jeune que moi, ça m'énerve. Donc voilà, pour lui, si on résume un peu sa pensée, rien de nouveau sous le soleil. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de relever que cette question de savoir si le numérique touche à la nature profonde de la guerre ou pas, donne lieu à des controverses théoriques, et du coup, engendre toute une production doctrinaire et qui en France passe par des livres blancs de la défense. Tiens, justement, ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'il y a des particularités nationales dans la manière d'aborder le pan numérique de la guerre ? Est-ce qu'on peut dire que ces particularités, si elles existent, sont liées à des traditions nationales en termes de doctrine militaire ?
Oui, il y a des différences de traitement, en tout cas d'appréhension de ces phénomènes, qui sont liées à nos cultures militaires, ou en tout cas à nos cultures stratégiques.
Par exemple ?
Par exemple, la culture stratégique américaine, elle est fondée sur le primat de la technique et la masse, très schématiquement. Et donc, vous retrouvez cet objet dans la manière dont ils appréhendent le domaine. C'est du hard, on est dans de la technique, on va défendre et on va attaquer des systèmes. En France, on a une approche, et en tout cas une tentative de définition qui est un peu plus large. C'est-à-dire que on a l'héritage issu de la sécurité des systèmes d'information, issu de notre culture d'ingénieur, de nos brillantes écoles, mais on a aussi le côté information. Donc on va avoir une vision dans laquelle on dit, oui, le cyber, c'est des tuyaux, c'est des ordinateurs, c'est des terminaux, c'est des satellites et des câbles sous-marins, mais c'est aussi ce qu'on dit dessus, ce qu'on dit avec, les données qu'on échange et la manière dont on les traite, ces données. Donc il y a vraiment les trois aspects, à la fois logiciel, la data proprement dite, et puis le support technique. C'est probablement lié à une vision dans laquelle on a toujours eu un peu de recul sur la technique pure. Dans notre histoire militaire, on est quand même habitué à faire en mode dégradé, comme on dit. C'est-à-dire
parce qu'on a moins de fric et qu'on est moins bon, c'est juste pour ça qu'on
a théorisé ça, ça s'appelle le système D, mais c'est quand même, ça fait partie de notre ADN, qu'on le veuille ou non, et c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, c'est le côté de débrouillardise. On appréhende les choses pas uniquement sous l'angle technique, et on sait faire quand la technique marche pas.
Et les Russes ?
Eux, l'approche, elle est plutôt informationnelle, d'emblée. Les questions cyber sont intégrées dans la stratégie informationnelle globale. Donc, eux, pour le coup, mettent d'abord la notion de contrôle, contrôle des contenus, avant de travailler sur le volet technique. Peut-être aussi parce que, sur le plan technique, ils étaient légèrement en retard par rapport aux Occidentaux. Je sais pas, je mets ça sur la table. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, oui, il y a une lecture de la conflictualité dans le cyberespace qui est liée à notre culture stratégique.
Ce que dit Bertrand Boyer, là, ça permet peut-être de comprendre ce qui s'est passé dans la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Parce qu'on n'a pas assisté à des attaques informatiques très spectaculaires de la part des Russes, ok. Mais l'offensive informationnelle, elle a été massive. À la fois pour maîtriser l'information sur son propre territoire, en empêchant l'accès à certaines plateformes, en interdisant des médias étrangers, en faisant fermer les rares médias russes indépendants, mais aussi en étant très offensif à l'extérieur. Ça a été largement documenté et on continue d'en voir les manifestations, hein, y compris dans notre pays. Or, ce souci prêté au pan informationnel de la guerre, on comprend en écoutant Bertrand Boyer que ça ne date pas du numérique. Les Russes prolongent dans le numérique une approche de la guerre qu'ils ont héritée de leurs aïeux. La guerre se gagne aussi dans les cœurs et les esprits. Mais est-ce que Bertrand Boyer n'a pas quand même été étonné par la puissance de cette offensive informationnelle ?
Je suis frappé par le changement d'échelle, mais pas par le changement de nature.
Alors, expliquez.
On a quand même une multiplication de produits, de supports, voilà, qui fait d'ailleurs qu'à la fin, tout ça entraîne une forme de relativisme autour de l'information qui circule et qui est finalement probablement l'objectif recherché.
C'est de nous faire douter de toute information ?
Oui.
Y compris celle qu'on produit soi-même ?
Oui.
C'est-à-dire qu'ils s'en foutent, les Russes, qu'on ait l'impression que c'est de la propagande, parce qu'à partir du moment où on pense que le reste aussi est de la propagande, du coup, c'est ça l'idée ?
Ils s'en foutent, les Russes, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux méthodes. Soit vous essayez de convaincre, soit vous essayez de détruire la légitimité des discours. Convaincre, c'est hyper compliqué. Détruire, c'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile d'instiller le doute, d'instiller l'autocensure. Même si c'est grossier, souvent, sur les réseaux, le premier qui parle, il n'a pas toujours raison, mais... Et c'est le « mais » qui est important, en fait. Il n'a pas toujours raison, mais quand même, il y a peut-être quelque chose.
Ok, donc, si je comprends bien ce que dit Bertrand Boyer, si on s'en tient à la guerre informationnelle, les médias ont changé, mais pas les buts, ni vraiment les méthodes non plus. Cela dit, j'ai une objection. Peut-être que ça ne change pas fondamentalement les raisons qu'on a de manipuler l'information. Mais est-ce que ça ne modifie pas autre chose ? Et là, je pense aux images qui nous arrivent presque en direct par les réseaux sociaux, et parfois même en direct, hein, dans les Facebook Live ou d'autres outils de streaming. Je pense aussi au registre de ces images, hein, qui parfois sont presque des images de jeux vidéo quand les soldats placent une GoPro sur leur casque, par exemple. Ce qu'on entend là, c'est ça. C'est l'enregistrement d'un soldat russe qui est pris avec son unité dans une embuscade et qui enregistre tout ça avec sa GoPro. Bon, et ben ça, on trouve ça en deux clics sur YouTube. Et donc, je demande à Bertrand Boyer si ce type d'image, le fait que les armées autorisent, voire produisent directement ce type d'image, est-ce que ça n'affecte pas notre rapport à la guerre ?
Si.
Ah.
Si, si, ça change fondamentalement le rapport au narratif qui est porté par le conflit lui-même.
En quoi ?
Le premier groupe à institutionnaliser ça, ou en tout cas à l'encadrer, c'est Daesh. Il le fait essentiellement parce qu'il y a des combattants étrangers qui rejoignent ses rangs. Et donc des gens... issus de nos sociétés, qui sont nés avec ça et qui passent leur temps à produire des images sur Instagram, sur Snapchat, machin. Et donc, ils l'ont intériorisé et encadré. Deuxième étape, ils se sont rendus compte que ça crée énormément de vulnérabilité, en particulier parce que ça générait des failles de sécurité dans les opérations. Donc, ils ont tenté de réguler le phénomène. C'est exactement ce que les armées occidentales pratiquent. C'est-à-dire que ce mécanisme-là, de appropriation, tentative de contrôle, aujourd'hui instrumentalisation, parce qu'on se rend bien compte aussi que quand on veut mobiliser au-delà de la zone de conflit, la communauté internationale, il faut des images, parce que l'image, c'est le vecteur de l'émotion. Donc c'est ce qui va déclencher le soutien ou la condamnation. Donc il faut des images. À la fois, il ne faut pas des images trop institutionnalisées ou trop officielles, parce qu'elles vont être remises en cause. Tout ça est quand même très compliqué, et donc ça change, à mon avis, profondément, la nature du rapport, non pas au niveau tactique. La guerre, ça va toujours rester une affaire d'hommes qui, à la fin, vont se regarder les yeux dans les yeux et se terminer pas très proprement. Mais ça change la nature de ce qu'est la guerre au niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau politico-stratégique.
D'accord, c'est pas forcément la guerre en elle-même qui change la guerre au niveau tactique, mais la manière dont elle nous habite, dont elle affecte les populations et les décideurs, c'est-à-dire la guerre au niveau politico-stratégique, comme le dit Bertrand Boyer. Mais en quoi ? Ça, j'arrive pas vraiment à comprendre. Et donc j'insiste, et le colonel explique.
L'image projetée n'est plus du tout contrôlée, ou très peu. Ça devient un vrai problème, parce que normalement, la guerre, c'est le règlement d'un conflit par les armes, mais pas par des acteurs tiers qui vont juger sur ce que vous faites, sur ce qui est fait, par l'information. Donc je pense qu'on n'a pas fini de mesurer les conséquences de ça, ouais.
En écoutant Bertrand Boyer, je pense au nombre de comptes Twitter dont j'ai découvert l'existence à l'occasion de la guerre en Ukraine. Des comptes anonymes parfois, mais pas seulement, qui suivent presque à la minute le mouvement des troupes, les combats, qui documentent les pertes matérielles ou humaines. Bon, les premiers jours, j'étais un peu suspicieux quant à la validité des informations, et puis progressivement, je les ai vues reprises, ces informations, avec quelques heures, voire quelques jours de retard par des journalistes qui, entre-temps, les avaient vérifiées. Déjà, pendant la guerre en Syrie, des cartographes amateurs inscrivaient en temps réel les mouvements du front. Mais alors là, j'ai l'impression qu'une étape supplémentaire a été franchie. Peut-être parce que c'est une guerre plus classique, peut-être aussi parce que la masse d'informations disponibles, et les vidéos notamment, est encore supérieure. Au passage, d'ailleurs, je suis assez fasciné par le travail qui est fait sur ces vidéos qui sont expertisées, sur lesquelles on fait tourner des logiciels pour permettre de certifier le lieu, l'heure à laquelle elles ont été tournées, etc. Bon, bref, tout ça, ça fournit presque en temps réel un discours tactique sur la guerre, qui échappe pour une grande part aux militaires. Et Bertrand Boyer, lui, il dit qu'on ne mesure pas encore les conséquences de ça. Mais justement, qu'est-ce qu'elles pourraient être, ces conséquences ? Bon, si on s'en tient au niveau des opinions publiques, il me semble que, pour aller vite, il y a deux possibilités. Ça pourrait banaliser la guerre, ou au contraire, nous en dégoûter. Alors qu'est-ce qu'il en pense, Bertrand Boyer ? Est-ce que cette documentation en temps réel, cette masse d'informations et d'images, pourrait nous dégoûter de la guerre ?
Ouais, peut-être. Ce serait souhaitable, peut-être. Je ne sais pas.
Bon, ok. Alors là, j'en reviens à mon point de départ. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie ressemble à la guerre telle qu'on la connaît depuis longtemps. Des colonnes de blindés s'embourbent dans des routes de campagne, des navires sont coulés, il y a des embuscades, les populations civiles se cachent dans des abris qui parfois datent de la Seconde Guerre mondiale pour se protéger de tirs d'artillerie qui transforment des villes en champs de ruines. Je m'étonne donc que cette guerre ressemble autant à toutes celles qui l'ont précédée. Et donc, je suis allé voir, pour en discuter, l'écrivain et critique d'art Jean-Yves Joinet. Depuis 12 ans, Joinet construit ce qu'il appelle une encyclopédie des guerres dans laquelle il accumule les citations de textes sur la guerre en les classant par mots-clés. Or, quand je lui ai demandé ce que lui évoquait l'invasion de l'Ukraine, Jean-Yves Joinet a eu une réponse qui m'a étonné. Il m'a dit que c'était une erreur qu'il avait faite de parler d'encyclopédie des guerres, qu'il serait plus juste, selon lui, de parler d'encyclopédie de la guerre, parce que la guerre est un continuum. D'abord, elle n'a jamais cessé depuis le début de l'histoire humaine. Ensuite, ses formes évoluent bien sûr, et notamment par les évolutions techniques, mais les fondamentaux sont inamovibles, ils sont étonnamment inamovibles. Et c'est très étonnant parce que malgré tout ce qu'il dit sur les évolutions techniques et les ruptures que ça engendre, Bertrand Boyer, eh ben, au fond, il dit à peu près la même chose que Joinet.
Les outils numériques, comme tous les outils qu'on peut utiliser dans le cadre d'un conflit, ils n'effacent pas les autres. Ils viennent se surajouter, ils viennent se greffer. Mais oui, c'est pas parce qu'on a des chars de combat qu'on n'a plus de baïonnettes. C'est pas parce qu'on a des avions qu'on n'a plus de fantassins.
Il ne pourrait pas y avoir des conflits entre États qui se règlent uniquement dans cet espace-là.
On pourrait aussi faire une partie d'échecs et régler nos problèmes comme ça. Enfin,
bah pourquoi pas ?
Oui, pourquoi pas ?
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc du coup, qui fait ressortir l'espèce d'archaïsme incroyable de ce que c'est qu'une conflictualité guerrière. C'est-à-dire, c'est quand même un truc où, au final, si il n'y a pas des morts...
Malheureusement, je pense que le règlement des différends, il passe encore, probablement pour longtemps, par l'affrontement violent et donc la destruction et l'utilisation d'armes classiques.
Est-ce que c'est pas ça la vraie limite du cyber finalement ? On en revient à l'action que je posais tout à l'heure, mais la vraie limite du cyber, c'est qu'il fait plein de trucs, mais au final, il fait pas ça, quoi.
Il fait effectivement plein de trucs, mais il ne va pas nécessairement vous appuyer dans ce type de règlement de conflit.
Il y a donc une forme de nécessité de la violence exercée par des humains sur d'autres humains. Et là, je comprends un truc qui jusque-là m'avait toujours étonné, mais sans que je me le formule vraiment. Il y a quelques années, on parlait de laboratoires construisant des robots capables de prendre des décisions de tir autonomes. Or, des conventions internationales ont interdit depuis ces expérimentations. Et cette interdiction, elle m'a toujours intrigué. Alors, on peut la comprendre assez facilement dans le cas de conflits asymétriques. S'il s'agit que des robots se battent contre des humains, c'est en effet très problématique. Y compris parce que la fiabilité est très difficile à atteindre. Alors, de la même manière qu'on ne tolère pas que des voitures autonomes provoquent des accidents, alors que des humains provoquent des accidents tous les jours, on ne tolérerait pas que des robots se trompent de cible pendant un combat et tuent des civils. Ça, je le comprends. Mais dans le cadre de conflits symétriques, là je comprends moins cette interdiction. On pourrait trouver très bien que ce soit des robots et non plus des humains qui s'affrontent sur un champ de bataille. Donc pourquoi pas laisser se développer ces robots ? Eh bien, en écoutant Bertrand Boyer, je comprends pourquoi. Parce que des robots qui s'entre-détruisent, en fait, on s'en fout. Et je soumets mon épiphanie au colonel.
En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas que ce soit des hommes ?
Ben ouais. Non, mais c'est ça ma question. Ouais.
C'est une excellente question, très philosophique. Je pense qu'il y a une forme de vérité dans ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas externaliser ou déléguer à la machine un certain nombre d'actions et celle-là en particulier. Donc oui, on reste dans le substitut, dans l'appui, dans le développement de certaines potentialités, mais probablement pas au-delà.
Les robots ne mourront pas à notre place, il faut s'y résoudre. Mais est-ce qu'ils feront de la tactique militaire à notre place ? Avant qu'on se quitte, je demande à Bertrand Boyer si, aujourd'hui, on réfléchit, dans le monde militaire, au rôle de l'intelligence artificielle en termes tactiques, à la part qu'elle pourrait prendre dans l'élaboration des opérations.
Dans les démocraties, ces réflexions, elles sont poussées assez loin, autour de comités éthiques qui, justement, visent à ramener l'homme au centre de la réflexion. Ouais.
Il y a des militaires en ce moment qui réfléchissent
à l'intelligence artificielle.
Ouais,
mais comme sur les systèmes d'armes semi-autonomes, etc., évidemment.
Et ils disent quoi pour l'instant en France ?
Alors ça, vous leur demanderez. Mais ils disent certainement qu'on va rester, on va laisser l'homme au centre de la boucle.
Donc ça revient toujours à la même question, quoi. C'est compliqué de se passer à la fois en termes de victime et d'acteur de la pauvre chair à canon. Ah, vous voulez pas, là.
Eh ben,
ça veut plus parler maintenant.
On a rigolé, mais en vrai, c'est pas très marrant. Cette conclusion, elle est, à vrai dire, un peu désespérante. Elle revient à dire que rien ne remplacera jamais la guerre telle qu'on l'a toujours pratiquée. Bon, ce qui est rassurant donc dans d'autres champs de la vie, jamais on sera complètement mis au chômage par les robots, eh ben ça l'est moins en matière militaire. Décidément, il y a des permanences que le numérique ne remet pas en cause, et ce ne sont pas toujours celles qu'on aimerait. Merci beaucoup à Bertrand Boyer pour cette discussion. Son dernier livre, Guérilla 2.0, est paru aux éditions de l'École de Guerre. Et je précise que j'ai découvert les travaux de Bertrand Boyer dans le très bon podcast d'Anaïs Meunier qui s'appelle Signal sur bruit. Merci à elle aussi. À la prise de son, c'était Sybille Clamins et Antoine Teboul. Au mixage, Benjamin Orgeret. Réalisation, Fabrice L'Aigle. C'était Le Code a changé, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.